Eh bien, point numéro 3, Metz-Ville d'art et d'histoire, Monsieur Fonté.
Merci, Monsieur le maire. Ce dossier concerne le travail que nous faisons dans le cadre de notre démarche pour le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de travailler aux effets de communication que devons nous mettre, aux moyens de communication que devons mettre en place pour valoriser ce dossier. Et il s'agit ici de collaborer avec l'Université de Lorraine et l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy pour la réalisation d'un film vidéo pour valoriser l'ensemble de ce patrimoine, mettre en place une maquette qui rend compte de la forme urbaine d'un quartier de la ville de Metz tel qu'il est inscrit dans le dossier que nous avons présenté au ministère de la Culture et à la direction du patrimoine, et aussi dans l'optique de présenter au grand public une des pages les plus glorieuses de l'urbanisme messin. Il s'agit de réaliser également une grande exposition sur Jacques-François Blondel à Metz, qui d'ores et déjà, la place est réservée à la Maison de l'architecture à Paris, dans un premier temps. Ensuite, cette exposition sera confortée pour un tour du monde, des capitales au niveau international, pour faire connaître ce dossier, puisque, vous savez, l'UNESCO, c'est aussi un travail de portée à connaissance très important. Alors, il s'agit dans cette motion de confier donc à l'Université de Lorraine et pour sa part l'École d'architecture de Nancy la réalisation de ce film vidéo, de cette maquette, pour un montant global de 30 000 euros, dont 25 300 seront à charge de la ville et 3 340 à charge des partenaires que je viens de citer. Pardon, 21 960 seront à charge de la ville et 3 340 représentant 50% du matériel à charge de l'université. Donc la motion est en conséquence. Alors pour information, dans la démarche de ce dossier, vous savez que la première étape à franchir est l'inscription sur la liste indicative française du ministère de la Culture. Une première étape est en cours puisque la commission du patrimoine du ministère de la Culture a désigné 3 experts qui vont venir expertiser, comme leur nom indique, le dossier de la ville de Metz. Les démarches sont en cours. Nous sommes en train de leur adresser l'ensemble des documents nécessaires. Et dans les semaines qui viennent, ils viendront sur Metz expertiser notre dossier et faire un tour dans la ville. Donc voilà, la mention est en conséquence sur cette affaire.
Question, alors on va noter les intervenants. Alors, Madame Colin Austerlet, Monsieur Aldrin, Monsieur... Ah non, pardon, c'est Monsieur Thiel. J'ai confondu le bras de Monsieur Aldrin avec celui de Monsieur Thiel, mais bien entendu, Monsieur Thiel sur le sujet et Monsieur Lebeau. Alors, on y va. Madame Colin Austerlet.
Oui, Monsieur le maire, justement, je souhaitais poser quelques questions sur la démarche qui a été initiée par votre prédécesseur et par son adjoint à la culture d'alors, Patrick Thiel, en vue justement de la reconnaissance du quartier impérial par l'UNESCO et son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Alors, moi j'aimerais savoir, effectivement, vous nous dites qu'il y a des démarches qui sont en cours. C'est vrai que c'est un projet qui date quand même de plusieurs années. On n'a pas vraiment, nous, de lisibilité en tant qu'élus sur les démarches qui sont initiées. On ne sait pas vraiment où en est ce projet. Et c'est une démarche qui est évidemment particulièrement importante pour le rayonnement de notre ville, mais aucun signe ne nous permettant aujourd'hui de penser que cette démarche est en voie d'aboutissement. Alors, moi, c'est un petit clin d'œil que je vous fais. J'ai lu dans la presse que la ministre de la Culture était un poids lourd. Moi, je préférerais qu'elle soit une locomotive pour Metz et que vous usiez de toutes les relations privilégiées que vous avez avec les membres du gouvernement et notamment avec la ministre de la Culture pour que ce dossier trouve une issue heureuse. Je vous remercie.
Merci, madame. Alors, monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire, c'est ne faire injure à personne que de dire que ce dossier passionne l'ensemble de ce conseil. Et je suis sûr qu'il vous passionne beaucoup et vous ne me ferez pas non plus le procès de penser qu'il ne me passionne pas, puisque comme l'a si bien et si généreusement rappelé tout à l'heure Nathalie Colin-Austerlet, nous en sommes un petit peu à l'origine. Alors c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire et moi je voudrais simplement qu'on fixe un petit peu bien les choses. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié s'il y avait un précédent, mais la labellisation UNESCO est extrêmement importante pour notre ville Et permettez-moi de dire que c'est sympathique, ville d'art et d'histoire. Hein, c'est très sympathique, mais je crois qu'il n'y a pas eu de précédent pour que ce soit une ministre ou un ministre de la Culture en exercice qui vienne inaugurer cette labellisation. Pourquoi ? Parce que la labellisation ville d'art et d'histoire, jusqu'à présent, n'intéressait pas beaucoup les villes. Pourquoi ? Sauf les petites. Parce que dès qu'on est une grande ville, ça coûte assez cher, parce que l'État demande beaucoup, elle demande un chargé du patrimoine, elle demande de la pédagogie, elle demande des locaux, bref, elle demande du coût de fonctionnement, auquel généralement l'État ne participe pas d'ailleurs. Et alors que cette labellisation, on ne peut pas dire que ça vaut autant qu'un 4 étoiles au guide Michelin, si vous voulez. C'est rare de consulter si la ville est d'art et d'histoire. D'ailleurs, on s'est un peu glorifié en disant, vous voyez, on est la deuxième ville de Lorraine après Bar-le-Duc. Ben oui, ben parce que les autres ne s'intéressent pas à cette labellisation, c'est simple. En revanche, toute autre chose est la labellisation UNESCO. Alors, la labellisation UNESCO, c'est vrai que la ville de Metz en rêve depuis bien longtemps. Le dossier a évolué, on a parlé de la cathédrale, on a parlé d'un certain nombre de choses. Bon, les choses sont de plus en plus difficiles, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, parce que les pays qui font partie de l'UNESCO sont majoritairement aujourd'hui ce qu'on appelait les pays émergents ou du tiers-monde, et que l'Europe a déjà eu beaucoup. Je rappelle ici, quand même, pour mémoire, que Nancy a la labellisation UNESCO et que la ville de Luxembourg aussi. Alors, nous avons une chance extraordinaire qu'a rappelé Nathalie Collin-Ousterlé. C'est que nous avons une ministre de la Culture qui est Messine. Alors, je rêve comme elle qu'elle devienne une locomotive. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il faut déjà que le dossier soit agréé par le ministère de la Culture. Et là, on espère qu'elle pèsera de tout son poids, que vous nous avez indiqué dans le journal. Mais encore faut-il ensuite que ça passe d'autres étapes. C'est pourquoi, monsieur le maire, je trouve qu'on a tourné un peu vite la page au profit de propos plus intellectualisés, je le reconnais, et fort intéressants, la page de notre quartier impérial. Pourquoi je trouve qu'on a tourné vite la page ? Parce que prétendre inscrire au patrimoine de l'UNESCO, peut-être d'autres choses avec, mais en s'appuyant sur le quartier impérial, présente l'avantage, pour la première fois au monde, qu'un pays, puisque ce dossier sera porté par le pays, par le gouvernement et par la France, demande le classement à l'UNESCO de son quartier colonial. Ça n'a pas de précédent, parce que nous étions bien considérés comme faisant partie de l'Allemagne. Et c'est pourquoi, s'appuyant sur le quartier impérial, je pense que ça reste toujours extrêmement valable, parce que si nous obtenons le feu vert du ministère de la Culture, et je ne doute pas que compte tenu de la présence d'Aurélie Filippetti à la tête de ce ministère, les choses en seront facilitées, je reprends la suggestion que le gouvernement français puisse convaincre, à mon avis facilement, le gouvernement allemand pour que la première fois une ville demandant son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO soit portée à la fois par le gouvernement français et à la fois par le gouvernement allemand. Je trouve que ça serait un geste fort, européen, de l'axe franco-allemand, et je ne doute pas un seul instant, compte tenu de la participation des architectes, des métiers d'art, etc., de l'Allemagne et de la France, qui ont contribué à ce quartier impérial, on puisse, de ce point de vue tactique, stratégique, obtenir quelque chose que l'Europe a de plus en plus de mal à obtenir.
Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, je prends le chemin qu'on ouvert mes deux collègues Nathalie Collin-Ousterlé et Patrick Thiel, parce qu'on ne peut que se féliciter de ces partenariats qui permettent de mieux faire connaître et aimer le patrimoine de notre ville, non seulement à ses habitants, mais aussi à ses visiteurs. Permettez-moi néanmoins de demander un peu plus d'informations, comme l'a évoqué Nathalie Collin-Ousterlé, parce qu'un comité scientifique a été installé en mars 2009. Joseph Abraham, historien et architecte nancéen, qui a mené à bien le classement du Havre, instruit depuis mai 2010 le dossier UNESCO de la ville. Ce dernier a rendu ses conclusions en décembre 2010, il y a près de 2 ans déjà. En février 2011, monsieur le maire, vous avez évoqué la possibilité que la démarche d'inscription à Metz, à la liste du patrimoine mondial, pourrait être remise au ministre de la Culture en décembre 2012. On vous écoute, monsieur le maire, et on prend les notes. C'est-à-dire dans moins de 3 mois. Donc, on est en droit d'avoir un calendrier et une explication sur où on en est réellement et quelle est la stratégie qui va nous permettre à tous d'inscrire ce quartier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je crois que les 55 conseillers municipaux que nous sommes portons tous ce projet. Lorsque j'avais organisé une université d'été à Guimarães, la ville de Guimarães, qui n'a rien d'exceptionnel, a réussi son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que le projet de classement à l'UNESCO était porté par ses habitants et il y avait une ferveur populaire très forte. Et je trouve que vous avez une capacité à communiquer et que vous ne l'exploitez pas. Alors certes, vous changez de directeur de communication, ça on verra à la fin du conseil, mais vous ne portez pas ce projet comme il se doit et fédérez tous les médecins qui ont envie que ce projet aboutisse. Et je pense que quand on relit les critères pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a un des critères, et non le moindre, qui est que ce projet soit porté par la population. Donc, ce que je vous pose également comme question, c'est est-ce que vous utilisez tous les programmes d'éducation et d'information pour renforcer l'attachement et le respect du patrimoine par la population? Et ça, je pense que... Et je rejoins aussi ce que disait Patrick Thiel, parce que Christiane Pignon-Feller disait également qu'une des pistes pour classer ce quartier impérial ou son extension également, c'était de travailler avec le réseau de villes allemandes. Et je voudrais savoir si vous avez utilisé cette piste et quels sont vos liens pour voir aboutir rapidement ce dossier. Je vous remercie, Monsieur le maire.
Oui. Alors, Monsieur Fonté, pour parler en particulier du calendrier... Que je n'ai pas les réponses en tête.
Écoutez, Monsieur le maire, ce dossier que l'opposition essaye de reprendre le train en marche, les élections approchant, c'est très intéressant. Je tiens... Alors, sur le calendrier, parce que comme ils l'ont très mal suivi, ce dossier, je rappelle que le dossier au ministère de la Culture a été remis en décembre 2011, si vous écoutez ce qu'on vous dit. En introduction, je disais que la démarche et la procédure étaient d'abord de l'introduire au ministère de la Culture, qu'il soit recevable par une première commission qui désigne les experts, ce qu'il vient de faire au mois de mai, le 24 mai exactement, lettre du ministère de la Culture qui le confirme. Donc nous sommes plus en décembre 2012, Monsieur Lebeau. Décembre 2011, remis au ministère de la Culture, si vous lisez la presse, les informations qu'on vous donne ici, par ailleurs, etc., etc. Le premier dossier, quartier impérial, comme vous le souhaitez, n'a même pas été instruit et renvoyé, sine die, parce que non recevable, tout simplement. Alors, si le ministère de la Culture, le courrier en conséquence, et avis du directeur du patrimoine en conséquence. Alors pourquoi il a été remis, il a été repoussé sans même être instruit? Parce que vous avez oublié qu'il y a déjà une partie du quartier impérial de Strasbourg qui est déjà classée au patrimoine mondial. Donc ils ne vont pas recasser une deuxième fois un même objet. Et si vous connaissiez bien les critères de l'UNESCO, c'est un critère d'universalité, hein, c'est comme l'Arche de Noé. On prend un bout, on le classe, et c'est le monde entier qui possède tout ça, qui est classé. D'accord ? Donc, ils ne vont pas reclasser une deuxième fois le quartier impérial. Donc, le travail qu'a fait Joseph Abraham, il l'a fait en prenant les caractéristiques particulières de la ville de Metz, qui intègre une partie du quartier impérial, bien entendu, et à la fois sur son urbanisme et sur son architecture du 18e, et notamment sur le travail de Blondel. Alors, le dossier, vous avez été présenté ici, mais vous n'avez pas de mémoire, bien entendu. Et donc, la démarche que nous avons mise en cours aujourd'hui porte ses fruits, puisque déjà, on nous désigne des experts. Le ministère aurait pu dire, votre dossier n'est pas bon, et rentrez chez vous, et vous n'avez pas besoin d'expertise de ce dossier. Donc, nous sommes déjà dans une démarche positive. ces experts vont arriver, vont venir. Alors, vous savez que la démarche de l'UNESCO, bien sûr qu'il y a plein de régions qui ont été classées, plein d'endroits, mais c'est une démarche longue. Et comme rappelait le collègue Thiel, bien entendu, les critères aujourd'hui sont d'autant plus resserrés que les pays européens, ayant introduit tellement de dossiers que l'UNESCO a demandé aux pays occidentaux développés de ralentir leurs demandes et de ne plus présenter que 3 dossiers par an pour favoriser les dossiers du pays du tiers-monde, etc., et des pays en difficulté. Donc voilà, notre démarche aujourd'hui est une démarche qui a été reprise par Joris Abraham, qui vient d'être agréé pour une première fois par le ministère de la Culture en désignant les experts. Deuxième étape, ces experts rendront leur rapport au ministère, qui sont des experts indépendants, je le rappelle, qui ne sont pas des fonctionnaires. Et c'est à partir de cet avis que le ministère de la Culture et la ministre de la Culture, dont tout le monde se félicite aujourd'hui qu'elle soit messine, donnera son avis en fonction de ce rapport, parce qu'elle a aussi un critère d'objectivité à respecter. Alors, cette locomotive va nous aider, bien entendu, puisqu'elle a déjà accéléré la venue des experts suite aux élections. Alors ça, et pour le calendrier, nous l'avons établi et nous vous l'avons donné dans le dossier qu'on vous a remis sur table à l'époque et qui est tout à fait clair. Donc, nous sommes même en avance par rapport à fin 2012. Ben bien sûr que si, puisqu'on l'a remis en décembre 2011, ce dossier, nom d'une pipe. Mais c'est pas vrai, là. Je vais lâcher un mot encore une fois. Parce que...
T'as raison.
On a remis un dossier en décembre 2011 au ministère de la Culture qui vient de l'agréer. C'est extraordinaire, ça. Il nous dessigne courrier du 24 mai du ministre disant « je vous envoie des experts ». Donc le ministère a le dossier. Non d'une pipe.
Voilà. Merci, Monsieur Fonté.
Il l'instruit, il est en instruction, et ensuite, il va dire, il est recevable, on le met sur la liste indicative, ou il n'est pas recevable.
Oui, Antoine.
Sacré nom.
Voilà. Merci. Merci, Monsieur Fonté. Tu vois que la pédagogie de Monsieur Fonté est tout à fait remarquable. Voudrais indiquer à Monsieur
Thiel... ceux qui croient... que la démarche à l'UNESCO est une Monsieur partie Thiel. De plaisir et qu'il suffit d'avoir un beau dossier, une belle ministre pour le faire passer, se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est un travail difficile. Nous allons déjà, sur la liste indicative française, devoir franchir une étape importante qui est d'être sur la pile, puisqu'il y a 36 dossiers au ministère, 36 dossiers qui ne nous ont pas attendus, bien entendu. Donc il va falloir que la qualité de notre dossier soit supérieure à tous les autres pour être au-dessus de la liste et pour que la ministre puisse le déposer à l'UNESCO et ensuite l'instruction de l'UNESCO démarre. Et c'est une instruction longue, parce que je vous rappelle que l'UNESCO traite des dossiers au niveau international et que c'est une question, ce travail de lobby très fort, d'où cette exposition Blondel qui va être une exposition didactique pour le grand public, pour les, justement aller travailler et mettre et porter à connaissance cette exposition et ce travail au public messin, aux citoyens, dans les écoles, etc. Donc ce travail, c'est une démarche scientifique. Ce n'est pas une simple opération de communication, comme certains voudraient le faire croire, en essayant de précipiter et faire échouer le dossier. Alors, attention à lancer des conneries dans la presse, on peut faire échouer le dossier. Je vous le dis. Bien. Alors, voilà, Monsieur le maire, calendrier, nous sommes dedans, nous sommes même en avance, et à bientôt.
Merci, Monsieur Fonté. Moi, j'aurais parlé à Monsieur Thiel. Monsieur Thiel nous a expliqué que Metz-Ville d'Art et d'Histoire, ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas très intéressant. Et Monsieur Lebeau nous a dit qu'il fallait que la population soit dans le coup. Est-ce que, Monsieur Thiel, vous avez eu la curiosité de regarder ce qui s'est passé à la journée du patrimoine ici à Metz? C'était de la folie. C'était de la folie. Il y avait du monde partout. Et on faisait la queue devant les monuments. Les Messins sont en train de s'approprier, justement, leur ville au sens de Metz, ville d'art et d'histoire. Et si, Monsieur Thiel, laissez-moi parler, je vous explique que répondre aux exigences de l'État, oui, il y a des exigences de l'État pour Metz, ville d'art et d'histoire. Oui, il faut faire de la pédagogie. Ça correspond à la question qui a été posée par M. Lebeau. Oui, il faut expliquer aux gens. Ça correspond à la question qui a été posée par M. Lebeau. Oui, il faut mettre la population dans le coup, avec les moyens qu'il faut. Oui, ça correspond à la question posée par M. Lebeau. Je pense que classe CMS, ville d'art et d'histoire, c'est une façon pour nous de mobiliser toute la population autour du fait que Metz est une ville exceptionnelle et que nous sommes en train de le réussir. Quand je vois la quantité, la foule qui se presse dans tous les monuments et les monuments de plus en plus intéressants que nous faisons visiter. L'opuscule qui a été distribué, qui a été fait par les services, était un opuscule remarquable. On est allé dans des endroits qui ne sont pas d'habitude visibles. C'était patrimoine caché. Il y a eu du monde partout. Quand il fallait téléphoner, au bout de, dès qu'on connaissait le numéro de téléphone, c'était plein. Et dans mon bureau, la même chose, ça s'est succédé. J'ai plaisir à faire visiter Metz, ville d'art et d'histoire. J'ai plaisir à participer à ces visites, puisque j'ai participé à plusieurs visites. Et je peux vous dire que l'aspect pédagogique n'est pas le moindre. Pour une fois, je suis complètement d'accord avec M. Lebeau, qui explique, à juste titre, qu'il faut mettre la population dans le coup. J'insiste sur le fait que l'extension du secteur sauvegardé, on pouvait le faire depuis longtemps. On pouvait le faire depuis longtemps. Les villes comme Strasbourg, Nancy, qui ne sont pas tellement éloignées de nous, qui sont, de mon point de vue, pas très différentes au plan de l'intérêt de Metz. Je dirais même que j'ai conscience, moi, que la ville de Metz, dans sa globalité, est extrêmement intéressante. Eh bien, voilà. Vous êtes tout simplement en train de dire que ça fait 20 ans que c'est fait ailleurs. J'ai rien d'autre à ajouter ici. Strasbourg, ça fait longtemps que c'est classé, et Nancy aussi. Ce que je veux dire, c'est que nous avons un travail qui maintenant est plus difficile, parce que nous arrivons, et vous l'avez dit, nous arrivons dans une période plus difficile, parce que les autres pays du monde veulent aussi participer. On ne peut pas arriver avec une cathédrale gothique, parce qu'il y en a déjà qui sont classées, c'est fini. C'est exactement l'affaire de l'Arche de Noé. À partir du moment où il y a une cathédrale gothique, il n'y en aura pas 50. Et nous avons donc à chercher une originalité de la ville de Metz. Et cette originalité, c'est sa globalité. À savoir, c'est l'ensemble de ces structures qui sont du Moyen-Âge, qui sont même gallo-romaines pour une partie, qui sont classiques du 18e avec le siècle de Blondel à Metz, et puis, en tout cas, le demi-siècle de Blondel à Metz, et enfin, avec le quartier impérial. Et tout ça constitue un ensemble tellement extraordinaire que toutes les analyses, toutes les façons de faire de l'UNESCO, on s'est penché sur les dix méthodes pour obtenir un classement mondial. Et bien sûr, ces 10-là, il n'y en a qu'une qui correspond bien à notre style, c'est la globalité de la vieille ville de Metz. Ça supposait de changer effectivement le secteur sauvegardé, et il fallait du culot pour le faire et même du courage parce que ça a des contraintes. Vous avez raison de le dire, il y a des contraintes. Nous nous mettons des contraintes et en même temps, nous sommes en train de mettre en avant pour l'ensemble de la population notre patrimoine parce que c'est cela que nous voulons porter collectivement. Et donc, moi, j'ai bon espoir d'avancer. Madame Filippetti, bien entendu, dans la mesure, j'ai été reçue, moi, par le directeur, et c'était celui d'avant, le directeur du ministère de la Culture, qui m'a dit, vous avez un bon dossier, ça va aller, ça va avancer. Voilà où on en est. Donc, par rapport aux contraintes qui sont les nôtres en ce moment, on ne peut pas aller plus vite. Et croyez-moi, il était temps de s'y mettre. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Des votes, opposition.
Non, explication de vote.
Explication de vote, allez-y, monsieur Thiel.
Monsieur le maire, votre passion pour les journées du patrimoine, on la partage tous, mais ça n'a aucun rapport avec la labellisation dont je parlais. Écoutez, à Paris aussi, les gens font la queue devant les monuments. Jamais Paris aurait eu l'idée d'avoir la labellisation ville d'art et d'histoire, tout simplement. Voilà ce que j'ai dit. Alors, qu'il y ait une passion pour le patrimoine, qu'il faille de la pédagogie, etc., moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai dit simplement qu'il fallait relativiser ça et que le dossier important, c'était celui de l'UNESCO. Donc, je vous ai bien entendu. N'empêche que je reste ferme sur cette idée que la globalité contient aussi le quartier impérial. Et que contrairement à ce que j'ai entendu par M. Fonté, ça n'a rien à voir avec Strasbourg, et que c'est une originalité particulière de Metz, et que si on s'appuie là-dessus, on pourrait avoir un échange franco-allemand. Voilà le propos que j'ai tenu, c'est tout. Maintenant, bien entendu, sur la collaboration de Nancy et de l'École d'art, nous sommes tout à fait favorables et nous voterons le rapport.
Merci. Alors, Monsieur Lebeau.
Juste un élément, on est tous d'accord pour, et c'est les 55 conseillers municipaux qui sont d'accord pour ce rapport et pour porter ce projet. Mais je vous rappelle juste qu'en termes de préservation du patrimoine, destruction du Moyen Pont, destruction de la place du général de Gaulle et de son mur d'enceinte, et je peux en continuer, je pense que votre mandat sera marqué par le fait que Metz a été outragé par ce que vous avez fait.
Monsieur Lebeau. Ça ressemble à une bouffonnerie, excusez-moi.
Et j'ajouterai qu'elle est...
Monsieur le maire,
sincèrement,
la dernière personne qui a utilisé ce terme a été traduite en justice. J'aimerais pas le faire également avec vous.
Elle a gagné.
Monsieur Lebeau, j'ai dit simplement que ça ressemblait à une bouffonnerie et je le répète.
Monsieur le maire, vous
pouvez mettre en justice et j'ajoute que ça ressemble.
Monsieur le maire, vous êtes quand même responsable. Monsieur le maire, vous êtes quand même responsable de la bonne tenue et de la correction et je pense que ce dérapage verbal ne vous honore pas.
Voilà.
J'ajouterai comme explication de vote que du patrimoine, il n'y a pas seulement à le préserver, il y a aussi à le construire. C'est le patrimoine de l'avenir. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, nous ferons tous ensemble du patrimoine. Je vous remercie.